Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Pour écrire les adresses, je vous propose de faire passer le stylo, parce que la personne qui n'ose pas le dire pourra le récupérer, c'est le sien. Et ça m'évitera surtout de récupérer un deuxième stylo. Voilà. Faire la collection. Aujourd'hui, nous lisons le récit de la Samaritaine. Je me souviens que la dernière fois, nous étions arrêtés sur une question importante sur la place de la narrativité dans la Bible. Est-ce qu'il faut regarder les récits comme nous renseignant sur des événements, et les événements ayant plus d'importance que le récit lui-même, ou est-ce que la texture du récit, l'aspect plus littéraire, lui-même a quelque chose à nous enseigner? Alors je vous avais dit, évidemment, les deux, au sens où ce qui prime, c'est le texte, ce n'est pas la méthode. Ce qu'on appelle la lecture narrative, c'est une approche. La lecture historico-critique, c'est une méthode. Il y a des approches, des méthodes, mais elles sont toutes au service du texte. Il y a des moments où ce qu'on appelle la lecture narrative, la manière dont le récit est construit, revêt une certaine importance, parce qu'il y a de fait une manière d'écrire qui est très particulière, qui est assez soignée, et c'est le cas en particulier de la Samaritaine. Voilà. Je ne poserai pas la question de l'historicité, comme je vais poser cette question à propos de les événements de la nativité ou de la passion. Hein, l'enjeu de ce texte est davantage le cheminement que Jésus fait faire à cette femme, c'est ça que nous allons voir, et donc la trame narrative a une grande importance. Mais il va de soi, même si je ne le précise pas, que je pars de l'idée, je l'avais dit quand même dans l'introduction en début d'année, que les événements sont historiques, il n'y a aucune raison de les remettre en cause. Hein, il y a un événement, mais d'un point de vue archéologique ou quoi, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Jean compose ce récit de la Samaritaine. Je suivrai tout simplement le fil du texte, les six premiers versets donnant le cadre et les circonstances qui, comme vous allez le voir, ont une très grande importance pour la compréhension de ce qui va se passer. Ensuite, à partir du verset 7, c'est le récit avec le corps du récit, c'est le dialogue avec la Samaritaine. Ensuite, deux scène conclusive, d'une part avec les apôtres, d'autre part avec les Samaritains, et un troisième point, je ferai une reprise synthétique, une sorte de lecture, hein, quel est l'enjeu du texte, qu'est-ce qu'il nous enseigne sur la base de la lecture que nous allons faire. On va suivre tout simplement verset, nous allons suivre tout simplement verset par verset. J'en profite aussi pour vous redire, parce que je le dis en général à la fin, au moment où tout le monde s'en va, qu'il est vraiment important de lire. Hein. Il va de soi que si on suit une formation biblique, ce n'est pas pour écouter quelqu'un qui nous dit des choses, c'est pour mieux lire la Bible, pour que la Bible, l'Évangile, nourrisse notre prière, notre foi. Un professeur d'exégèse à Rome nous disait, mon travail ce n'est pas de vous fournir des tartes aux prunes, c'est de vous apprendre comment faire des tartes aux prunes. Ensuite, toute votre vie, vous pourrez manger des tartes aux prunes. Si je vous fournis directement la tarte aux prunes, eh bien, une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne saurez pas comment faire. Voilà. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que vous ayez le goût de lire, quand vous serez seul, l'Évangile, avec tout ce que vous aurez pu découvrir pendant ce cours, à travers des aperçus, des manières de lire, qui, j'espère, nourriront votre réflexion et vous donneront le moyen de continuer seul. On pourrait imaginer un cours purement de méthodologie, je pense que c'est un peu sec, le mieux c'est de lire précisément un évangile et c'est ce que nous faisons. Alors, j'en arrive au texte, première partie, le cadre et les circonstances. Le cadre géographique joue un rôle de première importance. La scène se passe en Samarie. ce qui n'est pas tellement habituel dans l'Évangile. Il y a très peu de scènes qui se passent en Samarie. Il y a chez Saint-Luc l'histoire de la traversée de la Samarie quand Jésus et les apôtres se font mal accueillir chez des Samaritains. Ça doit être à peu près la seule scène qui se passe vraiment en Samarie. Ensuite, il est question de Samaritains ici ou là, mais c'est très rare. Vous allez comprendre pourquoi. La scène se passe près d'une ville qui s'appelle Sychar, que l'on identifie à Sichem. Très probablement, Sychar renvoie à Sichem, et du reste, ça correspond bien à la topographie qui apparaît, les indices qui sont donnés à travers le mont Garizim, le puits, un puits qui existe encore, un puits profond qui existe encore. Donc, la ville de Sichem est tout à fait probable. Sichem est connu dans l'Ancien Testament, c'est un lieu emblématique dans l'histoire d'Israël. Non pas des Samaritains, mais tout d'abord l'histoire de tout le peuple d'Israël, des 12 tribus d'Israël. À l'arrivée de après l'Exode, c'est à Sichem que les Israélites ont renouvelé l'alliance du désert. Vous savez qu'en Exode 24, il est question de l'alliance. On connaît bien qu'il y a les tables de la loi qui ont été données, Moïse qui réalise le culte de l'alliance avec le sang versé sur l'autel et sur le peuple. Et une fois arrivé en terre promise, le peuple d'Israël dit, eh bien, l'alliance du désert, maintenant que nous sommes arrivés, nous voulons y rester fidèles. Donc, renouvellement d'alliance en Josué 24. C'est un texte fondamental, et important de savoir, petite parenthèse, dans l'Ancien Testament, repérer des textes fondamentaux que je vous invite vraiment à lire quand il y a des références. C'est un exercice à faire chez vous de lire les textes. Ça fait partie vraiment des textes phares de l'Ancien Testament, de l'histoire d'Israël. Mais, et ça c'est intéressant, pour nous, c'est aussi à Sichem, au même endroit, que les Israélites du Nord ont rompu l'alliance en se séparant des tribus de Juda et de Benjamin. Pour faire très bref, certains connaissent bien, les autres peut-être un peu moins, voyez bien le territoire d'Israël, qui est plutôt dans le sens de la hauteur. La partie du sud, au sud de Sichem, à ce moment-là, il faut se dire que Jérusalem n'existe pas. Vous avez la tribu de Juda, une petite tribu qui s'appelle Benjamin, et au nord de Benjamin, vous avez Éphraïm, et puis les tribus Nephtali, Zabulon, Issachar, Asher, etc. Les 10 autres tribus qui sont au nord. Enfin, les 10 autres, il y en a qui sont de l'autre côté du Jourdain. Voilà. Donc beaucoup de tribus au nord, et la grosse tribu de Juda, mais la tribu de Juda qui est déjà promise à un avenir très glorieux, puisque les bénédictions de Jacob annoncent qu'il y aura un personnage qui jouera un certain rôle. Et c'est dans la tribu de Benjamin qu'apparaît le premier roi d'Israël, et le deuxième, c'est le roi David, qui est issu de Juda. Tout ça, c'est pas dans la feuille, je redresse le tableau pour comprendre ce qui va se passer. David va faire l'unité de toutes les tribus d'Israël. Grâce à David, Israël va connaître l'unité, les 12 tribus, et Salomon arrive, ça se termine mal, et après Salomon, on arrive en 2 rois 17, alors je passe les circonstances, de la rupture, les tribus du Nord disent au roi de Jérusalem, cette fois-ci il y a Jérusalem, depuis David qui a pris Jérusalem, il dit au roi, les tribus du Nord disent au roi d'Israël, mais qui est à ce moment-là, règne d'abord sur Juda, que nous ne voulons plus de toi, et ils rompent l'alliance. Voilà. Et ils vont constituer un royaume autour de la ville de Samarie. On va parler de la Samarie, le royaume de Samarie, qui en gros correspond à ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Au nord, le royaume d'Israël, au sud, le royaume de Juda. Alors les Samaritains vont garder les 5 livres de la loi de Moïse, liés au désert, évidemment, c'est les patriarches, c'est les origines communes aux Judéens et aux Israélites du nord, aux Samaritains. Ils vont garder bien sûr la foi au Dieu unique et la fête de la Pâque. Mais désormais, ils refusent de fréquenter le temple de Jérusalem et progressivement, ils iront au temple du mont Garizim. Il y a d'abord eu, il y a eu Bethel, il y a eu Dan dans le nord. Ils sont allés dans leur propre sanctuaire. Mais il y a cette rupture. Il y a donc 2 temples au temps du Christ, 2 temples rivaux, celui de Garizim et celui de Jérusalem, et 2 peuples séparés. Le peuple juif, vous savez que ça vient de judéen, hein, la tribu de Judas, ceux qui sont restés fidèles. Alors, ça ne peut pas forcément dire qu'ils viennent de la Judée, mais ils sont restés fidèles à Jérusalem, donc à la tribu de Judas. Hein, Yehudim, hein, qui va donner le mot juif. Et puis, le peuple samaritain. Voilà. Voilà, la rupture avec le Nord. Je suis allé un peu vite, excusez-moi. J'ai dit la rupture, un roi 12, et c'est en 2 rois 17 qu'il y a l'invasion. Excusez-moi, j'ai sauté une étape importante. L'invasion, finalement, de la Syrie, qui n'a fait que figer hein, cette séparation entre le Nord et le Sud, hein, puisqu'en 721, deux siècles après la rupture, avec le Nord, il y a eu cette invasion, vous savez, l'exil à Ninive. Hein, il y a un exil qui a été tellement terrible qu'on a perdu complètement trace des habitants de Samarie. Hein, quand il y a eu l'exil à Babylone, deux siècles après, les Judéens, les Juifs ont pu garder leur identité, mais la déportation des Samaritains en 721 a été beaucoup plus dramatique. Et donc, la population locale était complètement investie par des populations païennes qui ont fait que le pays est devenu complètement hétérodoxe hein, et même hérétique du point de vue des Judéens. Quand on lit la Bible, on voit que les rapports entre Juifs et Samaritains sont très mauvais. La Bible n'hésite pas à parler de sentiments de haine hein, qui existaient entre les Juifs et les Samaritains. Hein, le passage que je vous cite du Siracide, mais il y en a d'autres, dit, vous savez, c'est ce qu'on appelle les proverbes numériques. Hein, il y a 3 choses que j'aime et 4 qui me tiennent à cœur. Alors, ils écrivent les 3 puis 4 choses. Il y a 5 paroles du sage et 6 de l'homme savant. Voilà. Et là, c'est, il y a 2 peuples que mon âme est, voilà, et un troisième qui est en gros au-delà de la haine. Je le déteste tellement que je ne le connais même pas, enfin voilà. Alors les 2 peuples que mon âme est, c'est, je ne sais pas quoi, les Hittites et les Amorites, hein, et le troisième, ce sont les Samaritains. C'est, voilà. C'est vraiment d'une violence. On devine que cette séparation a été évidemment quelque chose de très douloureux, et puis le problème de l'idolâtrie. Voilà. Au mieux, il y avait de l'indifférence, une ignorance assumée. Jésus va essayer de passer par la Samarie, comme je le disais tout à l'heure, mais vous vous souvenez de ce passage où ils se font mal accueillir. Hein, on voit les 2 plus jeunes apôtres qui, tels 2 grands ados, un peu au sang chaud, disent « on va faire tomber le feu du ciel sur ce village samaritain ». Faire tomber le feu du ciel, en langage moderne, ça voudrait dire on leur rentre dans le lard. Quoi, hein. Voilà, Jésus leur dit « on va passer par un autre chemin voilà. ». Ça, ce sont les moments les moins graves. Voilà, on le voit d'ailleurs dans le récit, hein, la Samaritaine dit à Jésus, mais tu t'adresses à moi, je suis une Samaritaine. Normalement, un Juif ne parle pas à un Samaritain. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà, voilà le cadre dans lequel nous sommes. Il faut bien se rendre compte que la Samarie, ce n'est pas loin de Jérusalem. Hein. Vous avez Nazareth, le lac de Tibériade, Jérusalem. Et la Samarie, c'est un gros bloc exactement entre les deux. Donc quand on veut aller à Jérusalem, soit on fait un gros détour par le Jourdain ou par la route de la mer, soit on va direct, mais on passe par la Samarie. Hein, alors cet été, nous sommes passés par la Samarie, ça s'est bien passé. Voilà. N'empêche que ce qui montre que la situation est toujours un peu la même. Ah, très bien. Parfait. Tac. Vous repérez, vous êtes habitué. Le lac de Tibériade, qui ressemble un peu à un cœur, un Kinor, c'est ça qui s'appelle la mer de Kinneret. J'ai fait une erreur. Tac. La mer morte. Jérusalem est ici. Nazareth est là. D'accord. Et là, vous avez les montagnes de Samarie. D'accord. Aujourd'hui, c'est très simple, aujourd'hui, ça correspond à la Cisjordanie. J'allais dire, la situation est presque pas beaucoup changée parce que c'est voilà, quand on est passé cet été, le chauffeur de car était très tendu, c'était pourtant un Palestinien, mais parce qu'ils peuvent se prendre des cailloux, des choses comme ça. Donc la route directe, c'est ça. Et au cœur, vous avez Samarie et Sichem. Voilà. C'est là qu'il y avait le royaume du Nord. Voilà, Jérusalem, Nazareth, Et puis, on va mettre 6 quarts. Voilà. Alors, passer là, c'est bien, mais ça fait faire évidemment un détour où la route de la mer dont je vous avais parlé déjà, je crois que c'était l'an passé. Hein, voilà. Jésus passe par 6 quarts et il s'arrête ici. Voilà. Alors, le deuxième élément important, c'est précisément le cadre narratif. Le récit comporte des caractéristiques qui sont celles d'une demande en mariage. Voilà. On s'y attend pas trop quand on lit un récit autour de Jésus. Jésus mis dans la position de celui qui vient demander quelqu'un en mariage. Dans le Pentateuque, il y a 3 récits de demandes en mariage qui sont construits sur un modèle semblable. Éliezer et Rebecca, alors c'est à propos du mariage d'Isaac. Hein, Eliezer, c'est le serviteur. Vous ne trouverez pas le nom dans la Bible. C'est un nom qui a été donné par la tradition juive. Eliezer et Rebecca, Genèse 24. Jacob et Rachel. Et en Genèse 29, hein, Jacob qui arrive dans le pays de Laban, son futur beau-père, parce qu'il fuit son frère Ésaü. Ça va se passer de la même manière. Et Moïse avec les filles de Jéthro. Hein. Alors, vous avez un schéma qui revient à chaque fois. Parce que je devine la question, mais est-ce que c'est pas juste une coïncidence? Voilà, pourquoi faire forcément le rapprochement? Il y a des stratégies narratives. Si vous avez l'histoire de, un petit enfant qui va chez sa grand-mère, qui se déguise en loup, je sais pas quoi, le loup qui se déguise en grand-mère. Et qui lui dit, mère grand, je suis venu vers toi avec un goûter. Vous allez me dire, d'accord, c'est complètement une coïncidence. N'empêche que on a de bonnes raisons de penser que la référence du petit chaperon rouge a joué dans la composition de cette histoire. Ce qu'on appelle une trame narrative qui correspond à une stratégie. Il y a la volonté de rappeler un élément du même modèle. C'est pas du tout un hasard. Alors, le schéma est le suivant. Arrivée d'un homme qui n'est pas du pays, donc d'un étranger, en général le soir, près d'un puits. Une femme, ou plusieurs, vient chercher de l'eau. L'homme demande de l'eau. Là, il y a quelque chose d'important, un dialogue qui commence. Un dialogue s'ensuit qui conduit à une demande en mariage. Voilà, en très résumé, les éléments qui caractérisent ces trois récits dans le Pentateuque. Nous avons ces éléments dans le récit de la Samaritaine. Une femme vient chercher de l'eau. Une petite différence, on est au milieu du jour. Normalement, c'est le soir. Hein, en Orient, hein, comme il est dit en Genèse 24, dans l'histoire d'Eliezer et Rebecca, l'heure où les femmes viennent puiser de l'eau, c'est le soir. Voilà. On a à peu près les mêmes éléments. Le fait que la femme vient chercher de l'eau à midi, c'est un petit décrochage. On peut se dire, est-ce qu'elle a quelque chose à se reprocher, quelque chose à cacher? C'est un peu rapide en marquant, a-t-elle quelque chose à se reprocher? Au moins, a-t-elle quelque chose à cacher? Alors, nous reviendrons sur cette question du mariage. Tout d'abord, maintenant, je vais prendre le récit. Le récit, le dialogue avec la Samaritaine. Alors le dialogue, vous le connaissez bien, je pense que beaucoup partagent avec moi ce goût hein, de lire le récit de la Samaritaine, un des plus vivants, un des plus forts de l'Évangile, hein, quelque chose à la fois très très vivant, très réaliste, hein, un récit qui progresse par des décrochages, des rebondissements, hein, qui permettent finalement à Jésus d'arriver au but énoncé dès le début, « Donne-moi à boire », qui va être, la pointe sur laquelle va reposer le récit. « Donne-moi à boire ». Donc la question, c'est comment la femme va-t-elle pouvoir donner à Jésus cette eau? On repère 4 moments. 4 moments, on va voir qu'il y a une vraie progression, pour montrer la difficulté du texte. Moi, comme vous, je me suis toujours dit, tiens, là, une question de boire de l'eau, puis Jésus, brusquement, se met à lui parler de mariage. Va chercher ton mari. Il dira à Jésus, attends, mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, sauf le respect qu'on lui doit, qu'est-ce qui te passe par la tête? Voilà. Pourquoi Jésus, dit-il, va chercher ton mari? Puis la femme qui va se mettre à parler de sujets un peu inattendus sur le mont Garizim, alors que ce n'était pas le point de départ. Voilà. On voit que les choses progressent d'une manière extrêmement une sorte de logique qui est celle du récit, et c'est ça que nous allons essayer de voir. Tout d'abord, premier dialogue, versets 7 à 15, qui fonctionne sur le modèle des malentendus. Hein, vous savez, les malentendus, c'est Jésus qui dit à Nicodème, si celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume des cieux, et Nicodème qui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau ? Hein, ou alors, quand Jésus dit Lazare, il dort, hein, en fait, il parle de la mort. Voilà. Donc, il y a une compréhension matérielle et humaine de la part des auditeurs. Jésus passe à un niveau symbolique. Il y a ce qu'on appelle les malentendus johanniques, je vous avais parlé la première rencontre. Jésus demande à la Samaritaine de lui donner à boire. On peut très bien comprendre cette demande, tout d'abord, dans un sens naturel. Les malentendus, Jésus parle souvent d'événements concrets, historiques, réels, pour passer à un autre niveau. Mais Jésus a simplement soif. Il a laissé les apôtres aller préparer le repas dans la ville, faire les courses. Mais on admet ce sens naturel qui évidemment n'exclut pas le sens plus profond. Bien au contraire, chez Saint Jean, il y a toujours les deux niveaux. Ce qui est certain, c'est que Jésus attend d'elle quelque chose. La surprise de la femme, hein, c'est une Samaritaine, et comme on le disait tout à l'heure, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, donne à Jésus l'occasion de passer à un autre niveau. Hein, justement, il joue sur ce malentendu. Hein, donne-moi à boire de l'eau. Comment toi, tu t'adresses à moi, qui suis une Samaritaine? Et en plus, le puits est profond. Alors, c'est amusant parce que cet été, nous sommes allés au puits de Jacob. Hein, et il y a un petit moine avec sa barbichette, un moine orthodoxe, hein, et ils ont un seau avec un godet, ils nous versent de l'eau comme ça, et de fait on voit que le puits est profond. Hein, c'est extraordinaire. Et voilà, il y en a qui connaissent. Jésus passe immédiatement à un autre niveau. Il parle d'une eau vive qu'elle aurait pu demander. Hein, si tu savais qui est celui qui te parle et quel est le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Manifestement, la femme ne comprend pas. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Jésus est passé au plan symbolique pour introduire une vérité d'ordre théologique. Mais la femme n'est pas encore disposée à le comprendre. Elle s'obstine à entendre les paroles de Jésus dans un sens matériel. Elle est dans une impasse. Jésus aura du mal à la conduire plus loin. Il va donc opérer une sorte de décrochage après lui avoir fait cette demande qui va rester pour l'introduire dans une autre question aussi inattendue pour la femme que pour le lecteur. C'est là qu'on voit que quand on parle de stratégie narrative, Jésus entraîne dans le récit la femme dans une question qui la surprend. Mais reconnaissez que vous aussi comme lecteur, que nous aussi comme lecteur, nous sommes surpris. Et donc, on attend de comprendre pourquoi. Quelle est la pourquoi Jésus aborde-t-il ce sujet ? On entre donc dans le deuxième moment du dialogue après ce décrochage. Non seulement Jésus change de sujet, mais on voit qu'il va commencer à entrer dans la vie de la femme. Une question qui touche sa vie personnelle et même intime. Interroger quelqu'un sur sa vie maritale, ça touche une certaine intimité. Va chercher ton mari. La réponse de la femme est assez sèche. Ça montre qu'elle a été touchée. Sans quoi elle aurait une parole un peu polie. Hein, je n'ai pas de mari. Voilà. On peut considérer que sa réponse est une fin de non-recevoir. Hein, voilà. Passons à autre chose. Eh bien Jésus, précisément, je pense qu'il est très content de sa réponse. C'est exactement ce qu'il attendait. Il a touché juste. Il va rebondir sur ce refus de la femme. Tu as raison de me répondre comme ça. Tu as raison de dire je n'ai pas de mari. Parce que tu es dans la vérité. Vous voyez ? Ce que nous on voit comme une espèce de refus, de fin de non-recevoir, mais non. Elle est dans la vérité. Elle ne s'y attendait pas trop. Hein. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Alors évidemment, ce n'est pas la vérité qu'elle avait dans sa tête, mais Jésus lui fait mettre le pied sur le socle de vérité. Et c'est-à-dire la vérité, ça va être pour elle de mettre des mots sur quelque chose qu'elle n'ose pas dire. On voit, on a vu au chapitre 1, par exemple, comment Jésus louait ceux qui sont dans la vérité, qui ne savent pas mentir. Il salue en Nathanaël un vrai Israélite en qui il n'y a pas de mensonge. Il y a tout un jeu sur le nom de Jacob, sur Jacob qui roule les autres dans la farine, qui finit par se faire rouler, et un véritable Israélite, Israël, Jacob c'est Israël, c'est celui qui finalement, comme Jacob, est dans la vérité. Donc son éloge, tu dis vrai, quand il dit ça à la Samaritaine, en fait, elle le reçoit bien, et elle dit, je vois que tu es un prophète. Tu as parlé en vérité, tu as dit quelque chose de vrai toi aussi. Donc vous voyez que Jésus est en train de construire là où la femme était dans un discours qui était un discours un peu mensonger. Je n'ai pas de mari, ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Non, tu as raison de dire ça et maintenant on va aller plus loin. Alors précisément, on passe au troisième moment du dialogue. Jésus est passé de la recherche de l'eau à la recherche du mari, donc ce qui va toucher la vie de la femme. La femme elle-même va entrer dans le jeu, elle opère un changement dans le dialogue en l'interrogeant sur le culte. C'est, alors là, c'est très très beau, c'est son cœur de Samaritaine qui parle, elle reprend un peu l'initiative. Nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est pas du tout le sujet, mais puisqu'il est prophète, puisqu'il parle en vérité, puisqu'il me devine, puisque visiblement c'est un homme de Dieu, je vais pouvoir l'interroger sur une vieille, vieille question, la vieille question du culte, qui était posé déjà à l'époque à l'époque de la rupture en Israël, quand il y a eu le problème des sanctuaires dans le nord, le mont Garizim. Enfin, il va m'éclairer, puisque j'ai un juif sous la main, qu'on ne les voit jamais, qu'on discute jamais avec eux, je vais enfin y voir clair. Voilà. Donc, nos pères ont adoré sur cette montagne, avec sûrement cette attitude un peu ironique et condescendante, d'une Samaritaine qui rappelle aux Juifs qu'elle avait, que les patriarches, ils ne connaissaient pas Jérusalem. Pendant tout le Pentateuque, il n'est pas question de Jérusalem, c'était rien. Donc les Juifs, c'est Jérusalem, d'accord, mais c'est des petits nouveaux. C'est des novices. Nous, on a les patriarches avec nous, on a Jacob. Jacob, il ne connaissait pas Jérusalem. Le culte, c'était sur cette montagne. Donc, attitude un peu hautaine. Voilà. Le juif, c'est un petit nouveau, il prétend nous faire la leçon. Voilà. Et Jérusalem ne va venir qu'avec David. Et vous, donc, prise de distance, vous dites c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. D'accord. Est-ce que c'est quand même pas les patriarches qui sont le socle de notre foi? Ce que disent tous les juifs, évidemment. Le socle de notre foi, ce sont les patriarches. Or, ils ne disent pas qu'il faut aller à Jérusalem, c'est vous les juifs qui le dites. Ça permet à Jésus d'aborder la question centrale de l'alliance. Vous voyez comment le texte ne cesse de rebondir. La question du culte que Dieu attend de son peuple Israël. Il faut se souvenir que la libération d'Égypte dans le désert, le motif qui est donné, ce n'est pas parce que le peuple était esclave, ce n'était pas parce que le peuple voulait de la liberté, ce n'est pas pour ça. Ça, c'est une lecture un peu, qu'on a fait ensuite, un peu politique, ou je ne sais pas. C'est parce que Moïse dit « permet au peuple d'aller rendre un culte à Dieu dans le désert ». C'est la question du culte. L'alliance, c'est la capacité de répondre à Dieu par l'adoration, par le culte. La liturgie est centrale. « Permet au peuple d'aller dans le désert ». La chanson là, le gospel, « Let my people go », c'est tout à fait juste. « Laisse aller mon peuple », mais il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Let my people go to praise the Lord, pour adorer le Seigneur. Voilà. Donc la question du culte est vraiment centrale. Voilà. Vous, les Juifs, vous dites ça, mais vous êtes un peu dans une certaine contradiction. Vas-y, donne-moi ton explication. J'y verrai plus clair. Voilà. Jésus va prendre de la hauteur. Ce n'est désormais ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Il ne cherche pas à défendre sa ville vis-à-vis des Samaritains que vous adorerez le Père. Il en profite quand même. Et là, c'est délicieux, parce que Jésus, dans l'Évangile, est très souvent assez, impertinent, plus ironique que les gens qu'il a en face de lui. Il est quelque chose de très, très vivant. Il renvoie la politesse à la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. D'accord. Vous dites que c'est Garizim, c'est les patriarches, mais vous adorez celui que nous ne connaissons pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Mais évidemment, les prophètes sont ceux qui ont permis de comprendre la loi de Moïse. Car le salut vient des Juifs. Petite parenthèse, parole théologique absolument fondamentale. Le salut vient de Jérusalem, il vient de Juda, il vient du peuple qui est resté fidèle à l'Alliance. Ça, c'est un passage très très important. C'est du saint d'Israël, mais d'Israël qui est resté fidèle, et non pas d'Israël qui a fait cette rupture avec Jérusalem, avec le roi d'Israël. Voilà, le terme de juif recouvre bien sûr la réalité d'Israël, les héritiers d'Abraham et de Moïse, mais aussi le sens ethnico-géographique de judéens, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui fréquentent le temple de Jérusalem, par opposition aux Samaritains. Donc, petit rappel de la part de Jésus qu'il y a eu une rupture. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Mais c'est vrai, désormais, ce ne sera ni au Mont Garizim, ni à Jérusalem, qu'il y aura le culte véritable. Et la pointe de l'enseignement, c'est ceci, l'heure vient, et c'est maintenant, et là on voit qu'on est tout à fait dans un contexte joannique d'accomplissement, l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En pneumati kal kai aletheia. C'est deux termes très très importants chez saint Jean, et finalement dans la théologie chrétienne, pneuma et aletheia, l'esprit et la vérité. Alors, quelques précisions sur les deux termes d'esprit et de vérité. Tout d'abord, l'esprit ne renvoie pas à la réalité immatérielle par opposition à la matière. Ça, c'est le dualisme grec qui nous marque comme chrétiens. Vous m'avez entendu dû le dire peut-être à chaque séance, mais l'esprit, dans la Bible et dans la théologie chrétienne, ce n'est pas ce qui s'oppose à la chair. Quand saint Paul dit dans ses lettres, il y a deux lois qui s'opposent, celle de l'esprit et celle de la chair, c'est pas au sens de l'esprit immatériel. L'esprit, c'est ce qui se réfère à Dieu. La chair, au sens où elle est repliée sur elle-même. Mais il n'y a pas ce dualisme grec. Moi, je l'entends à peu près tous les jours. Des gens, en général, plutôt des chrétiens un peu éloignés de la foi et éloignés de l'Église. Mais quelquefois, quelques paroissiens. Mon père, vous êtes dans le spirituel. Sous-entendu, nous, on est dans les choses matérielles, les choses concrètes. Voilà. Je ne raconte pas ce que fait un curé avec les entreprises, les tuyaux qui fuient, les trucs et les machins. Le concret, je connais. Voilà, les photocopieuses. Vous connaissez les photocopieuses qui, quand la secrétaire va partir, commence à ne plus vouloir fonctionner, enfin, use vonaire. Le matériel, et ça fait partie aussi du spirituel. Voilà, parenthèse, c'était vraiment une parenthèse. Voilà, l'esprit, chez saint Jean, l'esprit renvoie à la vie. L'esprit renvoie à la vie, c'est la question de la vie. C'est pas une question de matériel et immatériel, d'abstrait ou de théorique ou de notionnel. Le terme est d'abord appliqué à l'Esprit Saint, celui qui procède du Père, que le Père donne en abondance et qu'il a fait reposer sur Jésus. Voilà. Donc, quand on parle de l'Esprit, on parle d'abord d'une personne divine qui vient animer le monde dans lequel nous sommes, mais sans qu'il y ait cette rupture, cette séparation entre le matériel et l'immatériel. Voilà. C'est dans l'Esprit Saint que le croyant est régénéré pour une vie nouvelle, naître de l'Esprit, j'évoquais cela tout à l'heure dans le dialogue avec Nicodème. Voilà. Donc, adorer Dieu en esprit, ça ne veut pas dire de façon purement immatérielle, ça veut dire dans l'Esprit Saint. De même, le mot « vérité » n'a pas le sens abstrait qu'il a dans la philosophie grecque. Avec la tradition, la définition classique de la vérité, dans la philosophie aristotélicienne, que saint Thomas d'Aquin a reprise, qui est normal dans une démarche de réflexion rationnelle, la vérité comme adéquation de l'intelligence à la chose, en réalité, la vérité chez saint Jean est quelque chose de beaucoup plus riche, qui se réfère davantage à la personne de Jésus, le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et Jésus dit lui-même, je suis la vérité. Je suis la vérité. On aura les deux termes, esprit et vérité, qui seront réunis dans l'affirmation de Jésus, l'esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers la pleine connaissance du Christ. Donc voyez que si Jésus déclare que désormais, on n'adorera plus le Père ni sur le mont Garizim ni à Jérusalem, il n'inaugure pas une religion purement spirituelle. et donc purement individuel, dans lequel ouais, je m'abstrais des réalités de ce monde, hein, je ferme les yeux, je prends la position yoga, et j'essaye de m'élever au-dessus de la matière. C'est absolument pas ça. Hein. Jésus annonce une nouvelle manière d'adorer Dieu, ce sera dans l'Esprit Saint, qui est le principe du culte nouveau, l'Esprit qui nous anime, et dans la vérité, c'est-à-dire dans le Christ, qui est le nouveau temple. Hein, et Jean chapitre 2, hein, Jésus, quand il parle du temple qui va être détruit et qu'il rebâtira en 3 jours, il parlait de son corps, c'est-à-dire l'Église. Hein, le culte, c'est-à-dire c'est toute la communauté chrétienne qui est rassemblée, hein, c'est l'Église. Mais l'Église, je vous rassure, vous n'êtes pas de purs esprits. Je pense que vous en êtes conscients. Hein. Eh bien, adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire dans la communion avec le Christ, dans l'Église, par la médiation de l'Église. Voilà. Le dernier moment du dialogue, après cette affirmation centrale, hein, de la pointe de ce à quoi Jésus voulait arriver, le dernier moment du dialogue, eh bien, ça va être celui de la confession de foi. C'est l'aboutissement pour cette femme de l'itinéraire que Jésus lui a fait faire. Un dialogue qui s'ouvre par un nouveau décrochage, hein, c'est-à-dire un sujet qui n'était pas induit par le dialogue précédent, qui n'était pas conduit de manière, j'allais dire, nécessaire, mais qui pourtant va s'appuyer dessus, hein, celui de l'attente du Christ. Hein. L'orientation clairement religieuse que Jésus a donnée au dialogue permet à la Samaritaine de s'exprimer sur son attente messianique. Hein, elle a vu qu'ils ont pu parler de la question du culte, au mont Garizim, Jésus a répondu, qu'est-ce que c'est que le culte véritable? Eh bien, elle peut aborder finalement la question de son attente religieuse profonde. Le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. Elle sait que Jésus pourra l'éclairer sur cette question du Messie. Et Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, chez saint Jean, ego eimi, toute son importance, c'est-à-dire c'est le « je suis divin hein. ». Je le suis, moi qui te parle. C'est la seule fois dans l'Évangile, on voit Jésus accepter le titre de Messie. Jésus le refuse, on le voit notamment chez saint Marc, ça vous dit quelque chose, quand il fait une guérison, quand il guérit quelqu'un, il dit surtout « tais-toi hein, », n'en parle à personne. En général, le gars, la première chose qu'il fait, c'est dire « ouais, regardez ce qu'il a fait ». Voilà. Donc évidemment, à la fin, on a eu ça à la messe il y a quelques jours, Jésus obligé de se tenir à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ambiguïté hein, sur l'attente messianique en Israël. Là, on est en Samarie et donc Jésus ne risque pas d'être confronté à ces ambiguïtés du messianisme davidique, c'est-à-dire un messianisme tout à fait nationaliste, hein, horizontal, politique, que Jésus, évidemment, évite. Chez saint Jean, on a quelque chose de ça, nous l'évoquerons la prochaine fois. Hein, quand les gens disent « il nous a nourris, nous allons faire de lui notre roi hein, », dans un sens messianique, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il part dans la montagne. Hein, il ne veut pas qu'on fasse de lui le messie nationaliste, il n'est pas là pour ça. Mais là, devant la Samaritaine, hein, évidemment, le messianisme s'est développé après la rupture avec le temple de Jérusalem, donc les Samaritains ne sont pas dans les mêmes dispositions que les Juifs. Voilà. Et donc Jésus accepte d'être reconnu par cette Samaritaine comme Messie. Voilà. C'est pour lui l'occasion de donner une ouverture sur la mission hein, au-delà du peuple juif. Hein, et ce sont de fait des Samaritains qui, le premier, feront une confession de foi, ce que nous allons voir justement dans l'une des 2 scènes conclusives. Ça va? Tout le monde n'est pas complètement assommé? On est à midi, hein, c'est quand même le soleil de Samarie. Il faut imaginer, il faut se mettre dans l'ambiance. Hein. Voilà, je n'irai pas jusqu'à faire les criquets, les grillons. Il y en a moins qu'en Provence, mais c'est un peu ça quand même. Voilà, 2 scènes conclusives. Je vais être un peu plus rapide. Il n'y a pas en Jean de discours missionnaire, comme dans les synoptiques. Matthieu 10, Luc 9 et 10, ça aussi c'est des discours importants. La perspective de Jean est clairement juive. Hein, on se rend compte que Jean est très très juif. Hein, tous ceux qui disent il est très grec, hein, il est très ouvert sur la culture grecque, en fait pas du tout. Hein, il connaissait la culture grecque, mais sa perspective est juive. Hein, la rencontre avec la Samaritaine donne l'occasion de donner un aperçu sur la mission. Juste après le départ de la Samaritaine, les apôtres arrivent de la ville, proposent à Jésus de manger. Jésus avait soif, il a dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Là, visiblement, il n'y est plus du tout. Quand il lui demande, est-ce que tu veux manger? Non, il est pris par autre chose, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Levez les yeux et regardez les champs. Jésus regarde la question de l'œuvre du Père, c'est ça qui le nourrit, c'est d'accomplir l'œuvre du Père. Le travail de la prédication qui a déjà commencé, maintenant les champs sont prêts pour la moisson. Hein? Chez les prophètes, la moisson est une image, c'est une image apocalyptique, hein? Une image des temps eschatologiques. Une image apocalyptique, puisque ça veut dire un temps de décision, un temps définitif. La moisson, c'est quand on passe la faucille, il y a donc un jugement. On recueille tout ce qui a été semé. La moisson met un terme au temps de la croissance, mais aussi on recueille les fruits. C'est cette perspective du jugement, mais qui suppose la mission. Nous entrons dans le temps de l'accomplissement. Certains se sont fatigués, d'autres peuvent entreprendre la moisson. Tous, le semeur comme le moissonneur, peuvent se réjouir ensemble. C'est le temps de l'Église. Nous sommes à la fois dans le temps de la mission, mais nous voyons déjà des fruits de cette mission. Alors, deuxième scène conclusive, c'est l'arrivée des Samaritains qui se sont laissés gagner par le témoignage de leurs compatriotes et qui attestent que, comme Jésus vient de le dire, les champs sont blancs pour la moisson. Il a dit ça aux disciples. Mais de fait, on voit arriver les Samaritains, vous avez celle qui sème, c'est la Samaritaine, elle-même s'est laissée ensemencer, on peut dire que Jésus a pu récolter le beau fruit de sa transformation intérieure, aussitôt après, première missionnaire de l'histoire du monde, de l'histoire de l'Église, elle annonce le Christ aux autres, les autres viennent, et ils vont confesser leur foi, et ils vont le dire, non pas simplement à cause de ce que tu nous as dit, mais désormais nous savons que c'est lui le sauveur du monde. Voilà, Jésus a fait faire à la Samaritaine un travail de vérité dans sa propre vie. Ce chemin, les Samaritains vont le faire à leur tour, et d'ailleurs le terme de vérité est repris à ce moment-là. Il est vraiment le sauveur du monde. Toute la question qui se pose, c'est celle de la vérité. C'est de gagner cette vérité du cœur pour qu'il y ait une confession de foi dans la vérité. Voilà. C'est ce que je vais développer pour ce troisième et dernier point, reprise synthétique. Donc je ne suis plus le récit, je vais relire de façon synthétique le récit à deux niveaux. D'abord l'histoire de la femme, ensuite l'histoire d'Israël. Tout d'abord, la femme. La femme, le petit indice du début, elle vient chercher de l'eau toute seule, à midi, sous le soleil, en Orient, comme le dit le livre de la Genèse, on ne va jamais chercher d'eau à midi. La femme avait quelque chose à cacher. Sa vie dissolue, elle finit par le reconnaître, l'empêcher de venir chercher de l'eau avec les compatriotes. On sait en Orient comment les choses se disent. Elles se disent aussi chez nous, mais ça ne se dit pas. En général, voilà. Maintenant, c'est par texto, par téléphone. Là-bas, on est beaucoup plus vite au courant, en Orient. Voilà. Elle est toute seule. Jésus a deviné cette femme. Et il n'est pas resté au milieu du guet. Il est allé jusqu'au bout. Elle commence par une stratégie de défense. Je n'ai pas de mari. Elle s'est finalement laissée entraîner dans cet itinéraire que Jésus lui a proposé d'accomplir. Parce qu'il a voulu qu'elle soit dans la vérité. Il a fallu qu'elle fasse un travail de mémoire et de vérité. La question de la vérité est centrale dans ce récit, la vérité aletheia, qui conclut les deux des étapes du dialogue. Le but est atteint quand cette femme est dans la vérité, alors qu'elle était dans la dissimulation et le mensonge. On pourrait dire, c'est un peu une image, mais le puits était ensablé. Ce que Jésus a voulu, c'est rejoindre le fond du puits. C'est plus l'expérience de la vérité que l'expérience du pardon qu'on aura davantage chez Saint Luc, l'évangéliste de la miséricorde, Saint Luc, l'expérience du pardon. Chez Saint Jean, c'est vraiment la question de la vérité, mais la vérité, pas seulement celle du Christ, celle aussi du croyant. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a révélé la vérité de ma vie. Une expérience qui lui fait retrouver la liberté. Parce qu'on est dans la liberté et dans la lumière que quand on fait la vérité, comme le dit Jésus. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et là, celui qui est dans la vérité, qui fait ce travail de mémoire, il faut faire ce travail de mémoire, il faut désensabler le puits de sa mémoire pour faire ce travail de vérité, et bien là, on trouve véritablement la liberté. C'est pour ça que Jésus paraît tellement libre Je vous le dirai quand nous travaillerons sur le récit de la Passion. Hein, et Saint Jean, plus que les autres évangélistes, insiste sur la très grande liberté de Jésus, mais il est dans la vérité, hein, du début à la fin. Donc il est pleinement libre. Cette femme n'a plus à se cacher, elle peut aller voir les autres compatriotes, et sa parole est crédible. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ah, témoigne de ce que Dieu a fait pour elle. Voilà. Chemin de vérité qui conduit à la liberté et à la lumière. Pour le lecteur de l'évangile, c'est-à-dire le disciple qui est toujours en arrière-plan, en arrière-fond chez Jean, quand vous lisez l'évangile, surtout chez saint Jean, vous voyez que vous êtes déjà présent. C'est le croyant, c'est ce que dit saint Jean à la fin. Si je vous ai écrit ça, c'est pour que vous croyez. C'est pas un livre d'information, c'est pour que nous ayons la foi. Tous ces récits, c'est pour que nous ayons la foi. Donc cet itinéraire, évidemment, il s'offre à nous, pour que nous devenions témoins de la miséricorde de Dieu. La joie la plus grande, la joie de cette femme, c'est d'avoir fait cet itinéraire de vérité, une expérience de libération que seul le Christ permet d'accomplir. Voilà. La femme, finalement, peut offrir à Jésus ce qu'il lui demandait au début, « Donne-moi à boire. » Ben, Jésus a obtenu ce qu'il voulait. Le commentaire de saint Augustin, très bon lecteur évidemment de saint Jean, « Qu'est-ce à dire, j'ai soif, j'ai besoin de ta foi. » Et la femme a donné sa foi, parce qu'elle a pu toucher le fond du puits, elle a pu laisser jaillir cette eau qui venait du fond du puits. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Selon, alors voilà, ça c'est premier niveau de lecture, un itinéraire spirituel personnel de cette femme qui peut s'appliquer aux croyants, aux lecteurs de l'évangile. Mais il y a ce deuxième niveau de lecture, selon un procédé classique dans l'écriture, qui peut s'appliquer ici, nous en avons beaucoup d'indices, on aura le temps, un peu plus de temps que les autres fois, pour s'il y a des questions, si on a besoin de revenir sur tel ou tel passage. Selon un procédé classique dans l'écriture, ce que l'on appelle les personnalités corporatives. Allez, je vais vous réveiller un petit peu, est-ce que vous connaissez les personnalités corporatives? Ne lisez pas la feuille, ceux qui l'ont lu ne répondent pas. Est-ce que ça dit quelque chose à quelques-uns?
C'est la typologie, c'est un peu la typologie.
Alors, ce n'est pas la typologie. C'est intéressant, le rapprochement. La typologie, c'est comment un passage va s'appliquer, va annoncer le Christ, comme en creux, le tupos. Personnalité corporative, il n'y a pas besoin de typologie.
Qui incarne une institution.
Pardon ?
Qui incarne une institution.
C'est pas quelqu'un qui encadre une institution. C'est institutionnel. Le roi, il règne sur le peuple. Il y a un rapport entre le roi et le peuple, mais... mais c'est un rapport, j'allais dire, qui est extérieur, qui est objectif, oui.
C'est une personne qui incarne un ensemble plus vaste.
Voilà, une personne qui incarne, on peut dire, qui représente un ensemble plus vaste. On voit un individu, mais à travers l'individu, on a un ensemble. J'allais dire, pour nous, dans la théologie catholique, l'exemple le plus marquant, c'est la Vierge Marie. Tout ce qui est dit de la Vierge Marie, on peut l'appliquer à l'Église. Presque tout. Parce que, évidemment, quand on dit que Marie est la toute pure, l'Église, nous, on a encore besoin de conversion. Mais que Marie soit l'objet de la miséricorde de Dieu qui la relève, qui manifeste sa miséricorde en la transformant complètement, c'est ce qu'il fait avec l'Église. Marie figure de l'Église dans le ciel. Voilà. Personnalité corporative. Alors, je vous donne deux exemples. Le serviteur d'Isaïe, pour les Juifs, évidemment, ils acceptent que le serviteur... Il y a cette lecture individuelle que les chrétiens ont retenue. Vous savez, le serviteur d'Isaïe, qu'on cite souvent, il n'avait ni figure pour attirer nos regards. Voilà. C'est nos péchés qu'il portait. On va l'appliquer à Jésus. Mais les Juifs disent majoritairement, dans leur interprétation rabbinique, c'est le peuple d'Israël qui souffre. Et donc, ils ont renforcé cette lecture vis-à-vis des chrétiens, pour montrer que ce n'est pas Jésus. Mais voilà, personnalité corporative. Il y a aussi... encore plus caractéristique, le terme de fille de Sion. Parce que là, c'est même pas un personnage qu'on peut identifier. La fille de Sion, en fait, c'est la ville de Jérusalem, mais qui va être représentée par quelqu'un, une personne au fond assez abstraite. C'est une abstraction parce qu'il n'y a pas une fille de Sion. Donc, on disait, c'est elle, la fille de Sion. Réjouis-toi, fille de Sion. Voilà le Seigneur qui est en toi, livre de Sophonie. Voilà. Eh bien, nous pouvons voir dans cette femme, la figure d'Israël infidèle. Ce n'est pas un hasard si la scène se déroule au lieu de l'alliance et de la rupture d'alliance. On est à Sichem. Ça a été un lieu décisif. Le lieu de l'alliance qui, chez les prophètes, est présenté sur le mode des épousailles, des noces. Ça, c'est un procédé classique. Le thème des épousailles, il est présent chez les prophètes. Dieu parle à Israël comme à une femme et une fiancée, une fiancée infidèle, quand il rappelle l'alliance, comme à une épouse, qui se comporte comme une prostituée. Donc, c'est d'une force incroyable. La femme elle-même se présente comme samaritaine. Donc, elle est profondément samaritaine. Moi qui suis une femme samaritaine, elle parle de nos pères. Donc, elle s'identifie bien à ce peuple. Et puis, elle introduit des questions relatives à son peuple. La problématique qu'elle pose, c'est celle du peuple samaritain. Nous adorons sur le mont Garizim. D'un point de vue narratif, je vous rappelle que, comme nous l'avons dit au début, la scène s'apparente à des demandes en mariage de l'Ancien Testament. De toute façon, avec une structure du récit extrêmement repérable. La fiancée figurée par la Samaritaine, eh bien évidemment, elle rappelle Israël infidèle, Israël qui s'est coupé de son mari, du Seigneur, plutôt le thème des fiançailles qui rappelle le désert. Israël infidèle comparé par les prophètes à une prostituée, une femme volage qui court après ses amants. Les avertissements des prophètes veulent toucher le cœur du peuple d'Israël pour lui faire faire un travail de vérité. Regardez chez Osée, tu es dans le mensonge. Tu n'es pas dans la vérité devant moi. Tu te fabriques un visage, mais ce n'est pas ton vrai visage. C'est pourquoi je vais te dépouiller. Vous vous souvenez dans le livre d'Osée. Je vais te retirer tes vêtements, nu comme à ta naissance, et là je te conduirai au désert, et là je parlerai à ton cœur. Dieu veut un dialogue de vérité. Vous voyez comment cette question de la vérité va être centrale quand Jésus, avec beaucoup de délicatesse, évidemment, on va dire beaucoup plus qu'avec les prophètes, cette délicatesse, cette finesse, cet humour, Jésus va conduire la femme à entrer dans cette vérité. Quelque chose de très bouleversant, de cette attitude magnifique de Jésus. Mais c'est exactement la stratégie des prophètes. Je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur. Pour que Israël puisse enfin être fidèle à cette alliance. Voilà. Eh bien, on peut dire qu'en Jésus, et n'oublions pas que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'époux au chapitre 3, il y avait une allusion indirecte dans les noces de Cana, toujours d'un point de vue narratif, mais Jésus époux, Dieu vient chercher son épouse infidèle pour la purifier. Encore une fois, désensabler le puits, lui faire retrouver la grâce de l'alliance qu'elle-même avait rompue. Tu as rompu l'alliance, mais je ne vais pas t'enfermer dans cette attitude de mensonge qui était la tienne. On revisite le passé. Il y a une relecture du passé, quelque chose de fondamental dans la Bible. Il permet d'aller au fond du puits pour donner l'eau vive de sa foi. Faisant un travail de mémoire et de vérité, il permet à la Samaritaine, c'est-à-dire au peuple de Samarie, de se détourner des cinq maris. Alors, il y a des commentateurs qui ont dit les cinq maris, ce sont les cinq livres du Pentateuque auxquels les Samaritains ont été fidèles. Ça fait partie des explications que vous avez peut-être vues chez les commentateurs. Personnellement, je ne vois pas comment ce qui était un des derniers éléments de fidélité de la part des Samaritains peut être vu comme cinq maris illégitimes. Donc je crois bien davantage qu'il s'agit d'une référence à ce qui est dit au chapitre 2e livre des Rois, chapitre 17. Cinq nations païennes qui vont coloniser la Samarie viennent avec leurs idoles. Problème de l'idolâtrie dénoncé par les prophètes. Voilà, tes cinq maris. À cinq reprises, tu t'es tourné vers des idoles, ceux qui ne sont pas ton mari. Voilà, donc mémoire de la Samarie, mémoire d'une histoire douloureuse. Mais Jésus va au lieu de la rupture pour recoudre, pour réunir, pour guérir, et pour que la Samarie, pour que Israël puisse retourner vers son unique époux, le Dieu saint d'Israël. Voilà. Alors, là je reprends, j'ai ajouté, je vous avoue, cette petite conclusion hier soir, après avoir relu un passage du père de Lubac dans le livre « Catholicisme », qui réfléchit sur la manière dont l'écriture s'applique à l'âme au niveau individuel, ce qu'on appelle la lecture morale de l'écriture, mais il y a aussi la lecture typologique qui est ecclésiale, interprétation personnelle et interprétation ecclésiale dans l'écriture s'appellent mutuellement. Une lecture personnelle, mais une lecture qui concerne toute l'Église. Il s'agit d'une même réalité. C'est l'Esprit Saint qui vient chercher l'humanité pour en faire l'épouse, l'objet d'une alliance d'amour Hein, c'est, ce qui est certain, c'est que ce soit interprétation personnelle ou ecclésiale, c'est toujours à travers le cœur du croyant, le puits du croyant, pour reprendre l'image de saint Augustin, hein, toujours du puits du croyant, de son cœur, que le Seigneur va faire jaillir l'eau vive, hein, l'Esprit Saint. C'est le côté étonnant du texte du chapitre 7 que malheureusement nous n'étudierons pas, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais l'ambiguïté du texte, en fait... Plus qu'une ambiguïté, on pense que Jésus, quand Jésus dit « de son sein jailliront des fleuves d'eau vive », il ne parle pas simplement de son côté à lui, Jésus, mais du sein du croyant, hein, comme si l'Esprit Saint venait jaillir du fond de notre cœur, par le don des sacrements, par le don du baptême, hein, qui permet la confession de foi, qui permet l'adoration en esprit et en vérité. Hein. « De son sein couleront des fleuves d'eau vive », il parlait de l'Esprit Saint, hein, celui en qui nous adorons le Père en esprit et en vérité. Alors, on n'a jamais fini aussitôt, il est 5, si, une fois je crois. Donc le temps pour 2 ou 3 questions, ou le besoin de reprendre un passage qui a été vu trop rapidement. Ou, je vous rappelle, on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, frère, j'aime bien ça.
J'ai une question. Oui. Est-ce que, en fait, dans le Nouveau Testament, finalement, cet exemple de personne qui est la première, peut-être, c'est la question que je pose, est-ce que c'est la première évangélisatrice femme, qui en plus n'est pas issue du peuple élu.
Oui, c'est extraordinaire. Alors, ouais. Qui n'est pas issue du peuple élu, elle est issue du peuple élu. Jésus s'adresse à Israël infidèle. Plutôt, voilà, qui n'est pas élu. Jésus dit bien ce passage, évidemment très important, le salut vient des Juifs. Hein, donc, ce n'est pas uniquement aujourd'hui l'Église qui fait des mamours à nos amis juifs, parce que, voilà, mais c'est parce que c'est une vérité théologique. Parce que le salut, c'est Jésus, et Jésus vient des Juifs. Voilà. Mais, paradoxalement, c'est une très très bonne remarque, la première évangélisatrice, c'est une femme, la deuxième, ça va être également une femme, c'est Marie-Madeleine, hein, qui annonce que Jésus est ressuscité, c'est même très beau. Mais là, c'est vrai que c'est une femme qui est la figure d'Israël infidèle, la figure de la prostituée, c'est ça qui est bouleversant, hein, c'est qu'on a vraiment la miséricorde de Dieu qui vient chercher une femme qui, a priori, comme elle le dit à Jésus, n'avait aucune raison de parler avec lui. Donc ça, c'est la puissance extraordinaire de la parole de Jésus et de la grâce. Mais c'est très important de le souligner. Tout à fait juste.
C'est Jésus qui l'a voulu, qui a choisi de...
Il s'assit au bord du puits. Jésus, il connaît les Écritures. S'approcher d'une femme avec laquelle, normalement, il ne devrait pas parler, il devrait attendre les apôtres, ils vont chercher de l'eau ensemble. Il parle à la femme près du puits. Normalement, c'est dans le petit groupe d'apôtres qui font ça. Donc, et là, je reviens à la lecture légitime que Marc nous rappelait la dernière fois, historique. Oui, historiquement, c'est-à-dire Jésus a posé un acte un peu audacieux. Mais c'est magnifique. C'est le caractère bouleversant de ce que Jésus veut faire. Il dit, voilà, alors la mémoire de cette Samaritaine, elle connaît les 5 livres du Pentateuque. Un homme m'adresse la parole près du puits, il me demande à boire. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient me demander ? Il vient me demander l'eau de mon puits. Il vient me demander ma foi. Oui. Alors ça, c'est dans la lecture qu'on va faire ensuite. Oui ? Oui. Il y avait une autre question, non ? Vas-y, et puis...
D'accord.
Si, si.
Parce que, en fait, quand on regarde dans les rois, depuis la fin de ce numéro, justement, qui s'appelle Fini, avec toutes les perversions avec les idoles, avec les Akshara, les Thor, les Baals.
Les Baals, Astarté.
Astarté, oui.
Baal et Astarté.
Avec ce qui a rompu l'alliance, est-ce que finalement, là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas une nouvelle alliance ?
Ah ben c'est complètement la figure de la nouvelle alliance. Alors le terme d'alliance va être théorisé par saint Paul. Voilà. Surtout un texte alors qui n'est pas directement de Paul, qui est la lettre aux Hébreux. Hein, vous disiez ?
Non, je pensais à l'Eucharistie.
Alors on l'a dans les synoptiques. Le sang de la nouvelle alliance, mais toute la. C'est très juste, hein, tout à fait juste. Le terme d'alliance va être beaucoup développé par saint Paul, mais la réalité est évidemment présente parce que la problématique des épousailles renvoie au thème de l'alliance, hein, dans l'Ancien Testament. Hein. Mais de fait, l'Eucharistie, vu comme sacrement de l'alliance, avec le rappel du le sang du Christ, le vin de la nouvelle alliance, etc.
J'ai lu une interprétation de Jean-Marie Martin que j'ai découvert.
D'accord.
Sur Internet. et il dit que en fait c'est pas, ça se résume à une question d'identité, que la Samaritaine doit découvrir qui elle est et doit découvrir qui est son interlocuteur.
Sûrement, oui. Il y a cet aspect-là. Je pense qu'il y a d'autres aspects aussi. On peut pas. Enfin, je connais pas cette personne, mais il faut se méfier de lectures qui vont prendre le texte un peu comme du matériau dont on va tirer un langage un peu abstrait. Vous savez, une espèce de voilà, chacun trouve son identité. Sûrement.
Mais c'est un théologien.
Très bon. Non, mais ce qu'il dit est sûrement très intéressant. Mais ce que je veux dire, par rapport à trouver son identité, ça c'est sûr, mais je crois quand même qu'il y a la question de la personnalité même du Christ. Hein. Si on reprend le terme d'identité.
Mais elle comprend qu'elle est de l'ancienne alliance. Quoi.
Voilà. Et ça, elle s'y réfère.
Ah oui.
Et ça, c'est très important pour elle.
L'eau du puits de Jacob.
Tout à fait. Tout à fait. Et ça, la référence de fait, l'identité pour un Samaritain, c'est ce qui les raccroche finalement à Israël, et donc ils appartiennent quand même au peuple élu, on peut dire, c'est qu'ils ont cette identité profonde qu'elle a dans sa mémoire, hein, puisque le thème de la mémoire est très très présent.
Tu
as eu 5 maris.
Oui. Alors là où il parle des 5 livres du Pentateuque.
Oui. Pourquoi ? Alors, il faut faire très attention, je vous l'ai déjà dit, une interprétation ne veut jamais exclure systématiquement les autres. Ce que je vous propose, c'est ce qui me semble le plus fiable, en allant regarder tel ou tel commentateur. Mais quand les gens me disent « Ah ben non, c'est comme ça et c'est pas comme ça », ça je n'y crois pas. Il n'y a que l'Église catholique qui a le droit de donner une parole définitive quand elle énonce un dogme, elle va dire une vérité, mais nous, individuellement, on n'a pas le droit de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein, quand j'ai Église catholique, c'est pas par rapport à Église, les frères et sœurs, c'est en tant qu'Église. En tant qu'Église, il faut que ce soit l'Église tout entière qui puisse dire une parole définitive, mais pas un individu, un groupe d'individus. Ça, c'est très très important. Et donc, par rapport à l'écriture, quand il y a des écoles d'exégètes, quand il y a des... faut faire attention. Mais les commentateurs, en effet, sont à même de nous apprendre des choses tout à fait intéressantes. Oui, il y avait deux... Oui.
Au troisième cours sur Cana, et du coup, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il y a une relation forte entre Cana et la Samaritaine, qui est une demande de mariage, Cana étant en mariage?
Oui.
Est-ce qu'il y a une relation, en fait, entre les deux
Alors, il faut lire Saint Jean comme vraiment une progression. Cana est présenté comme le premier signe, donc c'est l'idée du signe, et le signe qui va englober l'évangile. Là, on est dans la partie ce qu'on appelle le livre des signes. Alors, Jésus ne fait pas de signes, mais ça fait partie de cette pédagogie par laquelle il va nous conduire à reconnaître qui il est véritablement. Voilà, comme finalement l'époux. Voilà, comme l'époux. Et le signe de Cana, c'est précisément de reconnaître que Jésus est celui qui donne le vin nouveau, le vin meilleur de l'Alliance. Alors, c'est un peu indirect. Et alors, c'est peut-être une question à se poser. De la même manière que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une Samaritaine et non pas une Juive qui, la première, va faire cette confession de foi. De la même manière, les Samaritains, Jésus n'a pas besoin de faire de signes. C'est vis-à-vis des Juifs qu'il va faire des signes. C'est une autre problématique. Ça se recoupe par le thème de l'alliance et du Christ époux. Mais toujours à travers, évidemment, je le rappelle, une lecture narrative. En dehors de ce cours, quelqu'un m'avait dit « Mais attention, le jour des noces de Cana, Jésus était un invité. Il n'était pas habillé en marié. » D'accord, si on s'en tient à la réalité. Mais nous lisons le texte. Ce que l'Église a canonisé, il faut bien se rendre compte que ce que l'Église a canonisé, c'est un texte final, avec derrière lui tout le poids d'histoire. Mais c'est le texte, et le texte lui-même présente bien Jésus comme l'époux. De façon indirecte au chapitre 2, de façon directe au chapitre 3, et à travers cette stratégie au chapitre 4, cette stratégie narrative. Marc ?
Dans cette conversion, là, oui, de la Samaritaine, et puis aussi de tous les Samaritains qui la revoient, oui, après, est-ce qu'on doit plutôt imaginer qu'ils ont le sentiment de rejoindre les Judéens, en quelque sorte, comme s'ils s'étaient séparés et qu'ils les rejoignaient, ou est-ce qu'ils ont déjà une sorte de perception d'une nouvelle alliance, de quelque chose de complètement nouveau par le Christ,
Ce que le texte ne dit pas, Il ne le dit pas. Donc c'est à nous de le trouver. C'est ça qui est extrêmement beau dans l'écriture. Chaque récit constitue une sorte de totalité, mais une espèce de suffisance. Enfin, j'espère vous avoir montré quand même qu'il y a une cohérence de ce récit. Mais le tout de la foi, c'est-à-dire, par exemple, la réalité de l'unification entre les Samaritains et les Judéens, c'est au-delà du texte. Et c'est ce que je viens de dire. Il n'y a que l'Église qui peut le porter. L'Église en tant que communauté qui a reçu l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas la problématique ici. On reste au seuil. On reste au seuil. Mais j'aime bien cette remarque parce que, pour tout dire, même en réfléchissant sur la... En élaborant ce cours, puis c'est limité comme place, hein. Il y a beaucoup de choses, mais c'est limité. Je dis, mais c'est quand même la question de l'unification. Et elle n'apparaît pas de façon très directe. Mais la question est quand même posée. Mais il y a l'élément essentiel. Je crois que l'élément essentiel, c'est le don de l'Esprit Saint qui permet de confesser le Christ. Et Jésus le dit, je crois qu'il répond en partie à la question, en disant, ce n'est ni à Jérusalem, ni au Mont Garizim, mais c'est dans la confession du Christ que vous pourrez adorer le Père en confessant le Christ. Donc finalement, l'issue de sortie, c'est par la confession de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui... Oui. Alors ici et puis là, oui.
Non, moi c'est une question un peu hors sujet. Oui. Je me disais, quand est-ce que l'unité s'est faite pour les Juifs en dehors du christianisme entre les deux?
Ah ben ça, j'allais dire, on n'est plus du tout dans le texte. Et si on regarde les événements historiques, Saint-Justin, le grand théologien Saint-Justin, dans les années 150, il était de Naplouse. Il venait de Samarie. Hein. Donc on peut dire que historiquement, voilà. Puis l'évangélisation de la Samarie, mais non, mais tout simplement l'évangélisation de la Samarie, dans la question des actes des apôtres. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8 et évangélisation de la Samarie, c'est dès le chapitre 8. Donc voilà, on a la réponse. On a la réponse historique. On a la réponse historique. Tout à fait. Oui. Et puis on va y aller après. Oui.
Sur le passage qui est justement entre les noces de Cana et le passage avec la Samaritaine, à un moment, il y a Jean, le Baptiste, qui dit une parole comme quoi il est l'ami de l'épouse.
Voilà. Mais c'est ça que je cite. Et c'est là qu'il est. Il dit explicitement. Je vais reprendre le passage du chapitre 3, ça permettra de conclure de façon magnifique. C'est une parole très belle, pour moi, est vraiment centrale dans notre lecture des Écritures. Jean parle de son ministère, il dit, voilà, Jésus maintenant, ça y est, je l'ai présenté, moi, je n'ai plus qu'à disparaître. Ça veut dire la prophétie va se taire. Désormais, vous avez l'accomplissement. Qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Voilà. Telle est ma joie et elle est complète. Alors ce passage est extraordinaire parce que la joie de l'ami, c'est quand l'époux est là. Or l'époux est présent, là, Jean-Baptiste qui est la voix dans le désert, ce n'est pas la parole, c'est la voix. La voix, elle est faite pour se retirer, comme se dit saint Augustin dans le passage que je vous avais cité la fois précédente. Telle est ma joie, elle est complète. Or, une joie complète, hein, dans les évangiles, quelque chose d'eschatologique. Hein, Jean-Baptiste est comblé. Et alors, ce que je crois très important pour nous, une lecture un peu spirituelle, mais nous sommes comme Jean-Baptiste, il s'agit en lisant les Écritures d'entendre la voix de l'époux. Comme diraient les pères de l'Église, vous parliez de typologie tout à l'heure, en lisant un texte, qu'est-ce que ça me dit de Jésus? Comment est-ce que j'entends la voix de Jésus à travers ce que me disent, ce que je lis dans les évangiles? Comme je disais, je peux tirer un enseignement un peu abstrait, mais bien davantage, je peux entendre la voix de l'époux qui me parle, qui parle à mon âme. Mais
justement, je voulais savoir si ça voulait dire aussi qu'il se sentait en dehors de l'épouse qui est l'Église.
Je crois bien au contraire. Sa problématique n'est pas de dire je suis dedans ou dehors. Sa problématique, c'est quelle est la mission. J'ai fait les présentations entre l'épouse et l'époux. Voilà. Jean-Baptiste, il a vu l'épouse, c'est le peuple qui venait de Jérusalem pour recevoir le baptême. Il dit, l'épouse, tu es infidèle, tu viens recevoir le baptême, dépêche-toi de recevoir le baptême parce que les temps sont accomplis. Le royaume est tout proche, la hache se trouve au pied de l'arbre et bientôt l'arbre va être abattu, sauf si tu portes un fruit de justice. Donc au moins, c'est vigoureux. Mais dépêche-toi. Et après, il dit, ça y est, regardez, il est là. Voilà. Maintenant, il dit, il faut qu'il grandisse, moi je diminue. Mais il peut s'intégrer, j'allais dire, dans cette foule. Mais il accomplit son ministère. Et son ministère, il faut se rappeler que c'est celui de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà, bah, écoutez, merci. Alors, la prochaine fois, ce sera, je pense, un peu plus difficile. Ce sera Jean chapitre 6.
Voilà, le long discours du pain de vie.